Restez informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue dans cette édition. Blocus du convoi militaire français au Burkina Faso et au Niger. La ministre française des Armées, Martel Barkhane, n'a jamais livré quoi que ce soit à des groupes terroristes. Procès Thomas Sankara. Selon le témoin Issouf Sawa Dogo, c'est Nabi Ansoni qui a tiré sur la tête du président Sankara et Amidou Maïga sur son thorax. Conflit foncier à Saptouana dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Les habitants dénoncent l'occupation de leur terrain par la Sokojib. Et puis, attaque terroriste au Sahel, il faut qu'une armée africaine se lève pour nettoyer le continent. C'est ce que pense notre invité du jour, le panafricaniste Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Il est notre invité. Vous vous souvenez certainement, un convoi militaire de l'armée française avait été bloqué au Burkina Faso par des manifestants, puis au Niger. La ministre française des armées dénonce des actions de désinformation suite à cette affaire. C'est une situation que nous n'avions jamais rencontrée jusqu'à présent, tout en invitant à s'interroger sur les raisons pour lesquelles de telles manifestations ont éclaté. Florence Parly a indiqué, je cite, « Barkhane n'a jamais livré quoi que ce soit à des groupes terroristes ». Nous l'écoutons.
Ce convoi, c'est un des nombreux convois qui permettent d'acheminer ce dont les forces françaises ont besoin, en particulier à Gao. Il est vrai que celui-ci a été pris à partie à deux reprises, au Burkina Faso d'abord, et une deuxième difficulté s'est présentée juste après le franchissement de la frontière au Niger. Ce qui est important, c'est de savoir que il y a eu des violences, que manifestement il y a eu aussi des actions de désinformation sur les réseaux sociaux. Bref, nous travaillons aussi pour que de tels problèmes et de tels drames ne se reproduisent pas. C'est une situation que nous n'avions jamais rencontrée jusqu'à présent et auquel d'ailleurs les autorités aussi bien burkinabées que nigériennes n'avaient pas été confrontées. Et ce sentiment anti-français, alors évidemment il n'en est rien. Barkhane n'a jamais évidemment livré quoi que ce soit à des groupes terroristes puisque Barkhane combat les groupes terroristes.
Et en ce qui concerne l'annonce de l'arrivée de Wagner au Mali pour la lutte contre le terrorisme, Florence Parly a indiqué qu'une pression maximale se fera pour que cette situation ne se produise pas. Nous l'écoutons toujours.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit à Bamako, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir. Et il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année. Et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable.
La ministre française des Armées s'exprimait hier à Dakar à l'occasion de l'ouverture du 7e forum sur la paix et la sécurité en Afrique. C'était au cours d'un entretien accordé à nos confrères de RFI et à France 24. Et puis face à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina, le panafricaniste Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, pense qu'il faut une armée africaine pour lutter contre le fléau. Nous l'écoutons.
Il faut que les Africains le comprennent. Les attaques contre le Burkina Faso, c'est un message pour toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et pour tout le continent. Ces gens ont un agenda global. Ils pensent que l'Afrique est à prendre, et ils pensent que les Africains ne s'intéressent pas à leur continent, que les Africains n'y comprennent rien. Ces gens sont venus avec leur agenda. Les terres africaines les intéressent, les forêts africaines les intéressent. les ressources naturelles africaines les intéressent, les jeunesses africaines les intéressent. Ils veulent prendre leur part d'Afrique, comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis, comme l'Europe, etc. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Cabo Delgado, on exécute 34 personnes dès que ces djihadistes arrivent et viennent d'un autre pays. Et après, parfois, on nous dit que c'est à cause des raisons domestiques qu'il y a du terrorisme. Ces gens qui viennent d'ailleurs, les Chebabs qui vont aller attaquer au Kenya, des gens qui ne sont pas de nos pays. Et souvent, ces terroristes-là sont extrêmement riches. Ils ne sont pas pauvres. Ben Laden n'était pas pauvre. Il était extrêmement riche. Donc, il faut faire très attention. Il y a de l'idéologie et il y a un mépris profond contre les Africains avec la destruction de nos mausolées à Tombouctou, de notre savoir ancestral, un mépris de notre continent. Il faut que les Africains se lèvent, une armée africaine, pour nettoyer ce continent et nous rendre notre dignité et notre autonomie.
Présent à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné 3 Libres, le vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, a donné une communication sur le thème « Quelle démocratie pour nos enfants ?». Il est notre invité, interview à suivre dans un instant. Radio Méga, nous parlons du procès Thomas Sankara. À présent, 7 nouveaux témoins ont été entendus hier au tribunal militaire. Le premier, Issouf Sawadougou, a affirmé que c'est un Sony Nabié qui a tiré en premier sur le président Thomas Sankara alors qu'il avait les mains en l'air. On en sait plus avec Abdoul Fattah Tiamtouré.
Issouf Sawadougou était à son bureau ce jour-là au secrétariat permanent du Conseil national de la Révolution lorsque les tirs ont retenti. Le président tenait alors sa réunion dans la grande salle juste à côté. Une rafale envoyée par les assaillants brise la fenêtre et en sortant, Issouf Sawadougou dit avoir vu le président Thomas Sankara juste devant lui. Le président est sorti les mains en l'air. C'est là que Nabi a tiré sur sa tête et Amidou Maïga a tiré sur son thorax. Quand il est tombé, Maïga s'est accroupi pour prendre son pistolet automatique, raconte le témoin. Lui aura la vie sauve, mais il sera arrêté et détenu dans la chambre de Yacine Kafando, au sein du Conseil de l'Entente jusqu'au lendemain, avant d'être relâché. Dans la chambre, une image reste gravée dans la mémoire du témoin, selon ses dires. Un crâne humain posé à côté de la cendre et un œuf cassé à l'intérieur. L'autre témoin oculaire du jour est Boubié Bamouni, membre de la sécurité du président Sankara à l'époque. À en croire le témoin, ce jour-là, il était en permission, mais Sankara lui avait demandé de venir le voir après la réunion. C'est alors qu'il attendait en face du secrétariat du CNR lorsqu'il voit Yacine Kafando arriver au volant d'une voiture avec un Sony Nabié et d'autres éléments à bord. Boubié Bamouni voit le président s'écrouler avant de se sauver, selon son propos.
Et puis ce mardi, le général Gilbert Djingiré a été appelé à la barre pour des confrontations. Des témoins ont confié avoir reçu des ordres du lieutenant de l'époque, le 15 octobre 1987. On reste avec Abdoul Fattah Tiamtouré toujours.
La première confrontation a été faite entre le général Gilbert Djingiré, son chauffeur Ninda Pascal Tondé et le témoin Sansan Ien. Ce dernier, basé à Pau, assure qu'il était à Ouaga pour une mission. C'est par hasard, selon lui, qu'il se retrouve là au moment des tirs. Après les coups de feu, le chef du conseil de l'entente, le lieutenant Djingiré à l'époque, l'aurait interpellé pour lui dire « Prenez mon chauffeur avec mon véhicule et faites le tour des unités de Ouaga pour leur dire de rester en alerte ». Mission que le témoin dit avoir exécutée empruntant le véhicule du chef. Djingiré, appelé à la barre, a confirmé avoir envoyé l'adjudant-chef, mais sans préciser qu'il devait y aller avec son véhicule et son chauffeur. Quant à Ninda Pascal Tondé, le chauffeur, il dit ne pas se rappeler de cette mission. À la suite de Sansan Ien, Alexis Zongo, responsable des engins blindés à l'époque, est passé à la barre. Selon lui, c'est le lieutenant Djingiré qui lui aurait indiqué les corps de Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune, avant de lui instruire de positionner des engins aux sorties de la ville. Wendyele Sawadougou a également reçu des instructions du chef du conseil de l'entente. Le chef du détachement du BIA de Koudougou, basé à Ouaga à l'Enam, a affirmé qu'il était au camp Sangoulé-Lamizana lorsqu'il a entendu les coups de feu. Il appelle le lieutenant Djingiré qui lui dit « On nous tire dessus, prenez des dispositions pour occuper le carrefour Kayafada, c'est à la sortie est de la ville ». Le général Gilbert Djingiré dit ne pas se rappeler du contenu des échanges au Tolki-Walki, mais il pense avoir dit à Wendyele Sawadougou de le rejoindre au conseil. Pour le carrefour indiqué, Djingiré assure qu'il s'agissait d'un poste habituel du BIA. Les deux autres témoins entendus sont Jean Bapio Bationo, infirmier militaire à l'époque, et Moumouni Koiba, caporal d'ordinaire, celui qui a été chargé par le lieutenant Gilbert Djingiré de servir du café noir aux hommes pour qu'ils ne dorment pas dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987.
Merci Abdoul Fattah Tiamtouri. Notons que le procès Thomas Sankara se poursuit aujourd'hui avec la suite des auditions des témoins. Sur 111 témoins, 33 ont été entendus. Il reste donc 79 à auditionner. Et puis, conflit foncier à Saptouana, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Les habitants de la dite localité dénoncent l'occupation de leur terrain par la société de construction et de gestion immobilière du Burkina, Sokojib. Selon eux, la société, dans la délimitation de son site a occupé 22 hectares qui leur appartiennent et qui servent de culture pendant la saison pluvieuse. Les terrains ont été vendus par la Sokojib selon les populations qui par ailleurs interdisent aux acheteurs d'y construire. Les habitants de Saptouana demandent simplement à la Sokojib de leur restituer leurs 22 hectares. Leur ras-le-bol a été constaté hier par Chalda et Jacob Compaoré.
Pas question de récupérer 33 parcelles ou d'aller à Gobi, village situé à 30 km de Saptouana. Le torchon brûle entre les habitants de Saptouana qui pointent du doigt la Sokojib d'avoir occupé anarchiquement et vendu leur terrain. En guise de dédommagement, ils restent catégoriques et ne réclament que leurs 22 hectares. Dominique Nikiéma, représentant des habitants de Saptouana.
Nous avons nos 22 hectares ici. C'est là que nos ancêtres ont cultivé. C'est ici qu'ils doivent nous régler. 114 parcelles de 300 mètres carrés ou soit 136 parcelles de 240 mètres carrés. C'est ici que nous l'allons prendre. Nous n'allons pas le prendre ailleurs.
Sur ce site, il est interdit de construire, indiquent les propriétaires terriens qui interpellent les acheteurs à saisir la Sokojib pour le remboursement de leur somme. Dominique Nikiéma.
Dans le cas contraire, ceux qui ont déjà payé leur argent avec la Sokojib et que cela se trouve sur nos références que nous avons données, qu'ils repartent vers la Sokojib retirer leur argent. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes sur notre terre et personne ne va nous offenser ici.
Ce litige foncier dans la zone concerne environ 112 personnes qui sont en âge d'avoir une parcelle, principalement de la famille Nikiéma. Elles exigent simplement à la Sokojib de libérer leur terre réservé pour les travaux champêtres.
Omega Sport.
L'actualité sportive de ce mercredi nous est présentée par Benabé Cabré.
L'Atlético Madrid est en huitième de finale de la Ligue des Champions. En ballotage défavorable avant la dernière journée, les Colchoneros se sont imposés 3-1 sur la pelouse du FC Porto. Antoine Griezmann, Correa et De Paul ont marqué pour le club espagnol. L'Atlético termine deuxième derrière Liverpool qui a signé une sixième victoire 2-1 face au Milan AC. Porto est reversé en Ligue Europa alors que les Milanais sont éliminés. Sans trembler, le Real Madrid finit leader de son groupe en disposant de l'Inter Milan 2-0. Toni Kroos et Asensio ont marqué pour les madrilènes. Malgré sa défaite, l'Inter termine deuxième. Le Sheriff Tiraspol a arraché le match nul dans les derniers instants 1-1 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Le club moldave avait déjà assuré sa place en Ligue Europa. Assuré de finir premier de son groupe, l'Ajax a terminé en beauté en dominant le Sporting Portugal 4-2 avec un nouveau but de l'Ivoirien Sébastien Haller, son 10e de la saison en Ligue des Champions. Le Sporting est 2e et Dortmund 3e. Les Borussiens ont disposé du Beşiktaş 5-0. Entré en jeu à la 63e minute, Erling Haaland a signé un doublé. Dans le groupe A enfin, le PSG a assuré 4-1 face au club Bruges avec des doublés de Mbappé et Messi. Les Parisiens 2e pointent à 1 point de Manchester City, battu en Allemagne par Leipzig 2-1. Les Allemands valident ainsi leur billet pour la Ligue Europa. Les derniers qualifiés seront connus ce soir après les derniers matchs de poule. Le match le plus attendu est sans doute Bayern de Munich FC Barcelone. Cette rencontre a une saveur spéciale. Si le Bayern est sûr de finir leader, le Barça n'est jamais apparu autant en difficulté. Les Catalans ont encore leur destin entre leurs mains et doivent gagner à Munich pour se qualifier. Dans le même temps, le Benfica reçoit le Dynamo de Kiev. Une défaite ou un nul pourrait ne pas éliminer le Barça, à condition que le Benfica ne s'impose pas face au dernier de la classe, le Dynamo de Kiev. Il faut remonter à la saison 2000-2001 pour voir le Barça être débarqué en phase de poule de la Ligue des Champions. Dans le groupe F, Manchester United est déjà qualifié et recevra le dernier, les Young Boys de Suisse. Villarreal et l'Atalanta Bergame sont en embuscade pour le deuxième ticket. Les deux équipes s'affrontent d'ailleurs ce soir. L'Atalanta qui accueille doit impérativement gagner alors qu'un nul fera le bonheur de Villarreal. Le suspense est entier dans le groupe G. Aucune équipe n'est qualifiée et aucune n'est éliminée. Leader après 5 journées, Lille, 8 points au compteur, est en Allemagne pour défier Wolfsburg, 4e avec 5 points. Les Red Bulls de Salzbourg, 2e avec 7 points, accueillent le 3e, le FC Séville, qui a 6 points. Enfin, dans le groupe H, c'est Chelsea et la Juve qui vont livrer une bataille à distance pour la première place. Les deux équipes ont 12 points, avec un goal average favorable aux Blues. Pour les derniers matchs, la Juve reçoit Malmö et Chelsea se déplace chez le Zénith Saint-Pétersbourg.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité de ce jour est l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Tidiane Gadio. Il était au Burkina dans le cadre du festival de films sur les droits humains, Ciné Droit Libre. Cheikh Tidiane Gadio, qui est le président de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité, gouvernance, a appelé à une solidarité africaine pour gérer les crises sécuritaires au Burkina, au Sahel et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale, a été choqué suite à l'attaque d'une attaque qui a coûté la vie à 53 gendarmes. Il est interrogé par la Mine Traoré.
Bonjour Cheikh Tidiane Gadio.
Bonjour.
Alors vous êtes à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre. Vous avez donné des communications. Comment vous avez trouvé ce festival?
J'ai trouvé le festival tellement riche, tellement intéressant et j'ai vu son caractère populaire, la participation enthousiaste de certaines élites du Burkina que j'ai dit à mon ami Abdoulaye Diallo et Guy Hervé Kam, j'ai dit mais écoutez chers amis, ça c'est un des secrets les mieux cachés d'Afrique. Il faut sortir cette affaire de la clandestinité, c'est-à-dire que se propager mais de façon limitée. Je pense que ça mérite d'être connu dans toute l'Afrique de l'Ouest et que ce soit un festival qui réunisse 2000, 3000, 4000 participants parce que c'est magnifique.
Alors le Burkina, tout comme certains pays du Sahel, traverse une situation sécuritaire difficile. Quelle analyse en faites-vous?
Alors, comme moi, mon point de vue, depuis 2012, quand on a attaqué le Mali, j'ai dit que si on laisse le Mali seul gérer ce problème, ce n'est pas bon parce que c'est des forces qui sont motivées, qui viennent de l'extérieur, qui ont des moyens, des ressources et qui trouvent nos États dans parfois des crises de gouvernance, des coups d'État, des États faibles, etc. Et ils viennent, ils font leur boulot, ils s'installent. J'avais dit qu'une fois qu'ils s'incrustent dans nos sociétés, ils vont métastaser. Du Mali, ils vont attaquer le Niger. Du Niger, ils vont attaquer le Burkina. Et ils vont continuer parce qu'il y a l'espace. Nous sommes la terre des grands espaces. Le Mali fait 1 200 000 km². Le Niger, plus d'un million de km². Ces gens, ils trouvent leur bonheur à venir faire ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. De là que j'ai appelé moi une solidarité panafricaine, au plan militaire d'abord. On ne peut pas comprendre qu'on laisse l'armée malienne avec 20 000 hommes défendre 1 200 000 km². C'est une absurdité. Les Africains devaient se mobiliser. Pas un système de surveillance comme bon, les Nations Unies, c'est bien ce qu'ils font. Mais nous, moi je parle de combattants, des troupes d'élite africaines venant du Burkina, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie. Ils viennent prêter main forte à l'armée malienne pour qu'on règle le problème. Si on l'avait fait, quand nous on lançait l'appel entre 2012 et 2015, on n'en serait pas là. Pourquoi bon. Aujourd'hui, le Burkina, parce que je pense qu'ils vont par la théorie des maillons faibles. Le Mali pourrait sembler le maillon le plus faible, ils l'ont attaqué. Ensuite, maintenant, ils viennent vers le Burkina. S'ils peuvent terminer le travail, ils le feront. C'est-à-dire déstabiliser ce pays, lui créer beaucoup de souffrances et de problèmes. Et c'est inacceptable. Et je dis aux Ouest-Africains, comment se fait-il qu'à 6h du matin, vous entendez qu'on a massacré une cinquantaine de gendarmes burkinabés, ben vous allez prendre votre bain, vous habiller, prendre...
On y reviendra, mais pourquoi votre pays comme le Sénégal n'envoie pas de troupes au Burkina?
Non, le Sénégal a envoyé des troupes au Mali. Et comme malheureusement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une stratégie régionale ou continentale sur cette question. Et moi, je sais que le président du Sénégal est très sensible à la question parce que on échange sur ces questions-là et je sais qu'il est solidaire du Burkina Faso. Mais ce que nous devrions faire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des dynamiques individuelles. Le Sénégal aime le Burkina, il envoie des soldats. Non, ça ne règle pas le problème. Le Sénégal va venir additionner son problème avec celui du Burkina. Mais si nous avons une solution sous-régionale, comme ce que le président, feu président Idriss Déby a fait avec beaucoup de bravoure et d'engagement, envoyer 4000 hommes au Nigeria, envoyer 3000 hommes au Cameroun, envoyer 5000 hommes au Niger, envoyer 3000 hommes au Mali. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'était une forme d'engagement sincère et ça avait beaucoup aidé à l'époque. C'est de cela qu'il s'agit. Pas le Sénégal individuellement, le Nigeria individuellement, mais l'armée de l'Afrique de l'Ouest. On est la région la plus attaquée aujourd'hui dans le continent. Et chacun d'entre nous veut essayer de solutionner le problème par lui-même et pour lui-même. Et on n'y arrive pas.
Alors, et pour le revenu au Burkina, on a massacré 53 gendarmes. Vous êtes indigné dans une vidéo largement partagée sur les réseaux.
Mais absolument, et je continuerai à le faire, et je continuerai à attirer l'attention. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que les Africains sont très sensibles à ce message. Et ces Africains sont très sensibles à ce message. Et ils ne sont pas d'accord avec la politique de nos États. Ils sont d'accord que nos États doivent comprendre que défendre le Burkina, c'est défendre toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pas défendre un seul pays.
Dernière question, vous prenez l'unicité de l'Afrique, est-ce que vous y croyez, mais véritablement?
Mais si je n'y croyais pas, à quoi bon aller le chanter partout, faire des conférences, me fatiguer? Je pouvais quand même vivre tranquillement une certaine retraite et penser à tout ce que j'ai fait pour l'Afrique et dire que maintenant c'est le tour des autres. Mais ce serait une catastrophe. Moi je crois en Kwame Nkrumah, je crois en Cheikh Anta Diop, je crois en Thomas Sankara, à Amilcar Cabral, à Lumumba, à tous ceux qui ont donné leur vie pour ce continent. Et je pense qu'on nous a trompés en nous parlant d'État indépendant et souverain et nous avons cédé à cette tromperie. Aujourd'hui, il faut laisser toutes ces histoires de côté, nous mettre ensemble, nous unir dans une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest ne veut pas dire que le Burkina va se dissoudre dans la fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal va se dissoudre. Nos identités remarquables resteront. Vous serez un grand pays emblématique, le Sénégal sera un grand pays, etc. etc. Et on mettra tout ce que nous avons de meilleur ensemble pour une armée commune africaine, une monnaie commune de la communauté, une diplomatie commune, un commerce extérieur commun, une citoyenneté commune. Vous imaginez ces grands espaces très beaux, très grands. On sera une puissance mondiale comme l'Inde, comme la Chine très rapidement.
Merci, Cheikh Tidiane Gadi.
C'est moi, merci.
Le panafricaniste Cheikh Tidiane Gadi, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal à l'instant. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bourema Maïga à la technique, Denis Izungrana à la présentation.
Radio Omega, l'info en direct.